France Culture.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir consacrée aux accidents mortels du travail. Chaque année, des centaines de personnes meurent sur leur lieu de travail. 810 en 2023, selon les chiffres du ministère, c'est plus de 2 personnes par jour. Souvent, le drame résonne dans la presse régionale comme un fait divers, sans passer le mur du débat public. Seulement voilà, depuis quelques mois, une série noire de morts au travail, touchant notamment des personnes mineures, parfois en stage d'observation, interroge sur la signification qu'il faut donner et les solutions qu'il faut apporter à ces drames humains. Il y a quelques jours, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a annoncé une série de mesures qui entendent renforcer la responsabilité des entreprises. Elle a aussi présenté les grandes lignes d'un plan de prévention des accidents des travail graves et mortels, tandis que de leur côté, plusieurs syndicats alertaient et encore ce matin sur la multiplication des stages et les faibles moyens de l'inspection du travail. Alors comment comprendre ces morts au travail? Faut-il y voir une carence de l'État ou une responsabilité des entreprises? Comment mieux reconnaître et mieux indemniser les familles des victimes? Peut-on se défaire de la mort au travail? Voici le thème de l'émission de ce soir. Et avec nous pour en parler, 3 invités. Arnaud Mias, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur des universités à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez publié il y a quelques années déjà les risques professionnels. Peut-on soigner le travail? Et plus récemment, en 2024, aux éditions de La Dispute, La condition intérimaire, c'était un livre collectif. À vos côtés se trouve Paul Dufil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de l'OPP-BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Et enfin, en duplex avec nous, depuis ici La Rochelle, Fabienne Bérard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'association Collectif Famille Stop à la mort au travail. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
On n'a pas pu revoir notre fils pour faire notre deuil déjà, tellement cette machine l'avait abîmé.
Il m'a dit pas mal de choses, mais il m'a surtout dit qu'il allait démissionner parce qu'il ne travaillait pas en sécurité. À son retour de vacances, sa lettre de démission allait être posée sur le bureau. Il n'y a pas eu de vacances.
C'est un gain de temps que veulent faire les entreprises. C'est évidemment des économies, c'est des manques de moyens qui sont affectés à la sécurité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les salariés ne sont pas assez formés, prévenus, et donc on arrive à ces accidents qui coûte la vie à de nombreux salariés en France aujourd'hui.
Il faut qu'il y ait des instances, des institutions qui puissent contester un certain nombre de décisions de l'employeur, les contrôler, mettre leur nez dans ce qui se passe dans les entreprises. Donc ça, effectivement, ça contrevient aux logiques de profit économique, c'est certain. Mais voilà, il faut choisir entre les deux.
J'ai proposé aux partenaires sociaux des orientations sur notamment une obligation de formation pour les employeurs qui reçoivent des jeunes, des apprentis. Ça n'existe pas aujourd'hui, d'interdire à des employeurs qui ont été condamnés pour faute inexcusable de pouvoir recruter à nouveau un apprenti. Un durcissement, mais surtout une instauration de la culture de la prévention.
Instauration de la culture de la prévention, c'était la voix de la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet il y a quelques jours sur BFM TV. Nous avons aussi entendu les voix des parents de Jules Perthet, décédé à 21 ans dans l'usine de recyclage Paprec, de Juliette Papot, avocate au barreau de Paris, et de Simon Picou, syndicaliste CGT des inspecteurs du travail. Arnaud Mias, est-ce qu'il y a consensus aujourd'hui sur le fait qu'il y a urgence concernant les morts du travail en France?
Ce qui est vrai, c'est que on porte davantage l'attention à ces thématiques. Hein. La question des accidents du travail, elle est ancienne. Hein. Elle est prise en charge depuis plus d'un siècle. Ce qui est vrai, c'est que depuis maintenant quelques années, il y a une attention soutenue de la part des médias. Hein. On se retrouve par exemple ce soir à en parler, mais également des pouvoirs publics et du ministère du Travail en particulier pour essayer d'avancer. Alors, cette attention soutenue, elle s'explique sans doute par un certain nombre de drames hein, liés à ces morts au travail, mais plus globalement aussi au fait que la fréquence des accidents du travail peine à diminuer depuis maintenant 10-15 ans, et malgré les efforts qui peuvent être faits, on bute aujourd'hui sur une réduction qui était, disons, la tendance des dernières décennies. Et là, maintenant, depuis 10-15 ans, on rentre sans doute un peu dans le dur pour réduire encore la fréquence de ces accidents du travail, et en particulier les accidents les plus graves.
Les chiffres sont stables, hein. Paul Dufil, est-ce que ce sont des accidents sur lesquels on peut agir? Anomia disait à l'instant, là on est dans le dur, on a réussi à réduire ces accidents graves et ces morts au travail ces 10-15 dernières années, enfin jusqu'à ces 10-15 dernières années, et puis là, il y a comme une espèce de noyau. Est-ce que c'est un noyau irréductible? Est-ce qu'il est possible d'éviter les accidents lorsqu'on regarde dans les faits de quoi il s'agit?
Non, heureusement, nous sommes bien persuadés en tant que préventeurs que les possibilités existent, bien entendu, pour continuer à descendre. Je dirais que on a quand même, je dirais même si effectivement les chiffres peuvent de temps en temps donner à question, en tout cas en ce qui concerne le BTP, les indices de fréquence continuent à baisser, les accidents mortels de chantier ont baissé, même si, et ce qui est un point positif ces dernières années, on prend en compte l'intégralité des décès au travail, dont les malaises, qui ont effectivement fait remonter les chiffres.
Alors, on dit régulièrement que c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer la France à d'autres pays européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes règles de comptabilisation entre pays européens. Maintenant, je vous dirais...
En disant la déduction des malaises, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, il y a plus ou moins d'accidents mortels au travail que dans d'autres pays européens?
Nous, selon les indications que nous avons, la France n'est pas le mieux placée en Europe en ce qui concerne les accidents mortels au travail. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a encore beaucoup de possibilités pour agir. D'abord, les techniques progressent. Et quand on dit les techniques qui progressent, ça veut dire des équipements, des méthodes d'intervention qui sont plus que ce qu'on appelle « safe by design ». Et donc qui permettent d'assurer la sécurité, quelles que soient les circonstances, les modes d'emploi. Deuxièmement, on progresse beaucoup, je dirais, en d'abord sociologie du travail, et donc la perception, la prise en compte de ces éléments-là. On progresse également dans les systèmes de management, dans la compréhension, finalement, de ce qui fait la prise de risque au moment où il faudrait finalement l'éviter. Alors tout ceci, malheureusement, progresse trop lentement. À notre goût, on aimerait bien entendu que ça aille beaucoup plus vite. Mais moi, je reste très très optimiste sur la capacité que nous gardons tous collectivement à aller plus loin. Et les mesures que vous avez d'ailleurs mentionnées, qui sont proposées par Madame Panosian-Bouvet, vont dans ce sens-là. Et
personnellement, j'en attends beaucoup. Ces mesures en détail. Fabienne Bérard, je le rappelle, vous êtes présidente de l'association Collectif Famille Stop à la mort au travail. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment, quand, pourquoi s'est monté ce collectif?
Eh bien, d'abord, moi, j'ai perdu mon fils dans un accident du travail, voilà. Et puis, comme toutes les familles dans cette situation-là, nous nous sommes retrouvés, mon mari et moi, dans un grand sentiment d'isolement, d'abandon, d'incompréhension complète. Et puis, le sentiment que le décès de notre fils Flavien était complètement invisible, voilà. Donc quelques mois après son décès, on est rentré en contact avec d'autres familles, en fait, dans la même situation que nous, parce que on avait besoin de partager nos expériences, nos difficultés, nos connaissances. Ça nous a permis de réaliser, en fait, que c'était loin d'être un fait divers, que c'était un vrai problème de société, que les morts au travail, ils étaient nombreux, que c'était un problème quotidien. Et nous, on avait besoin de savoir, dans notre isolement et notre douleur, comment gérer ces moments et comment appréhender les démarches administratives et juridiques qui s'en suivent. Elles sont nombreuses et il faut gérer tout cela. Tout s'enchaîne très vite au pire des moments, parce qu'on est complètement anéanti. On est traumatisé par la mort. Ce sont toujours des morts très violentes, je tiens à le préciser. Des morts dans des conditions extrêmement violentes, c'est extrêmement douloureux. On parle souvent du choc des collègues de travail, du collectif de travail. On peut aussi parler du choc et des profonds traumatismes pour les familles qui sont marqués à tout jamais. Donc on a fait des actions, notamment une marche blanche auprès du ministère du Travail. On a été reçus, on a été entendus, on est devenus leurs interlocuteurs au fil du temps. Et on se réjouit qu'Astrid Panosian-Bouvet se montre aussi compréhensive à notre égard. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le fait qu'elle n'a pas attendu d'être ministre pour se pencher sur ce problème, sur ce drame qu'est la mort au travail. Elle nous a contactés il y a bien longtemps, alors qu'elle était députée de Paris, en nous montrant beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie et une véritable écoute. Donc depuis qu'elle est ministre, voilà, des choses se mettent en place et vont dans la bonne direction, puisqu'elle a pris le problème à bras le corps.
Fabienne Bérard, Quand on regarde les portraits des victimes mortes au travail qui sont sur le site internet de votre collectif, on est frappé par ce qui les lie. Ce sont tous des hommes et une grande majorité d'entre eux semblent jeunes, voire parfois très jeunes.
Beaucoup. Moi, j'ai parlé à énormément de mamans dans ce collectif où nous avons maintenant un peu plus de 50 familles et 200 adhérents. Les témoignages qu'on a entendus en tout début de votre émission m'ont beaucoup touchée, en fait, parce que ce sont des mamans qui prononcent des mots qu'on a toutes prononcés. À savoir que nos enfants nous ont quasiment tous dit qu'ils se sentaient pas en sécurité, qu'ils débutaient, qu'ils étaient mal encadrés, mal accompagnés, que leur soi-disant tuteur, ils ne savaient pas où il était, qu'ils n'avaient pas de consignes précises, et qui n'avait pas de sentiment de sécurité. Et mon fils également m'avait dit « Maman, je finis cette mission et je rentre, je n'y retournerai pas, c'est trop dangereux. » Mais il est décédé 3 jours après.
Jérémy, c'était un bon vivant. Donc il avait fait des études brillantes. Hein, donc, 21 ans, après 2 années de prépa, il était rentré dans une école, une grande école d'ingénieurs. Donc en fait, au bout de la première année d'école ingénieur, vous avez un stage... Alors, qui s'appelait à l'époque « Observation et compréhension des chantiers », qui s'est transformé depuis en stage ouvrier, parce que la réalité de ce qu'on leur fait faire, c'est pas du tout de l'observation, c'est tout de même, on les utilise alors comme de la main-d'œuvre non qualifiée, et on leur demande de faire un peu tout, en expliquant que c'est la meilleure façon pour eux, qui vont diriger des chantiers quand ils seront plus tard, de comprendre en fait exactement ce que c'est. Donc, les 3 premiers jours, il est rentré le premier soir, il nous a dit « j'ai fait du marteau-piqueur aujourd'hui ». Le deuxième soir, je ne sais plus très bien ce qu'il a fait, et il est mort sur le toit parce qu'on lui avait demandé de ramasser les câbles qui traînaient sur le toit. Voilà.
Je rappelle une série noire mise en lumière par une enquête de Radio France parue la semaine dernière. En un peu plus de 2 mois, 4 stagiaires mineurs sont morts. Il y a eu Axel écrasé par une palette, Lorenzo percuté par un engin de chantier, Lucas écrasé par une poutre métallique dans une usine et un stagiaire en milieu agricole happé par une machine. Ces drames se sont produits entre le 30 avril et le 4 juillet. Tous ont entre 15 et 17 ans et ce qui ressort, c'est qu'à chaque fois, ces jeunes étaient présents sur le chantier. Est-ce qu'il y a là pas une piste évidente, c'est-à-dire de la mise en danger de ces jeunes, de ces stagiaires sur des chantiers dans des lieux où ils ne devraient pas se trouver, Paul Dufil?
De façon évidente, oui. Le cadre réglementaire, quelque part, est censé avoir tout prévu. N'importe quel jeune qui arrive dans une entreprise est censé avoir un tuteur qui doit s'occuper de sa formation initiale, le mettre en garde par rapport aux risques principaux. Mais de fait, on constate dans un certain nombre de cas, je dirais, un manque d'encadrement, un manque d'accompagnement. Après, parmi les accidents dramatiques de ces dernières semaines, je pense à celui qui a coûté la vie au jeune Lorenzo, qui avait 15 ans, à Saint-Martin-du-Var. Je veux dire, caractère encore plus dramatique dans cet accident. Le chef d'entreprise qu'il accueillait pour ce stage était de sa famille. Donc je dirais, il me semble important de bien noter que dans tout un nombre de circonstances, l'ensemble des parties prenantes finalement à ces drames sont les premiers surpris. Alors ceci ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas possibilité d'améliorer les choses, et d'ailleurs la ministre du Travail en a parlé en disant, et moi je pense que c'est un impératif effectivement, il faut qu'on puisse donner les garanties. C'est pas simplement la théorie du texte. Il faut qu'on donne la garantie pratique que tous les jeunes qui arrivent effectivement dans des environnements de travail, et en particulier là où il y a des risques d'accidents graves et mortels avérés, fassent l'objet d'une formation à minima qui au moins leur apprend quels sont les risques majeurs et surtout leur apprend à savoir dire stop quand soit ils ne savent pas, soit ils ont un sentiment de ne pas être en sécurité. Ça, ce sont des éléments sur lesquels le gouvernement travaille, l'administration travaille, les acteurs du BTP également travaillent, parce que, je dirais, tout le monde a été marqué par des accidents. Effectivement, il y en a eu plusieurs qui se sont succédés depuis le début de l'année, et il est indispensable de prendre des mesures complémentaires pour agir.
Arnaud Mias, si on regarde les chiffres, l'étude de l'Institut National de Recherche et de Sécurité, l'INRS, il raconte que la fréquence des accidents du travail, pas des accidents mortels, mais des accidents du travail en général, est 2 fois et demi plus élevée chez les moins de 25 ans que dans le reste du salarié. Comment expliquez-vous que ce soit les jeunes d'abord qui soient les premières victimes de ces accidents du travail, et puis on le voit là avec cette série noire des accidents mortels du travail?
Bon, d'abord, c'est une régularité qu'on observe depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'effectivement, l'âge est fortement corrélé au risque d'accident du travail. Alors, l'explication qui est habituellement donnée, c'est que On n'apprend pas le travail seulement théoriquement, par un ensemble de consignes à appliquer. Et que, en fait, on apprend aussi à produire, à assurer le travail qu'il faut assurer avec prudence, en sécurité. Et c'est ce que certains ergonomes appellent des savoir-faire de prudence, qu'on n'acquiert pas comme ça théoriquement dans une salle de classe, qu'on acquiert sur le terrain, mais je vais dire, non seulement par l'expérience, mais surtout par le contact avec les collectifs, avec les managers, qui vont nous transmettre ces savoir-faire de prudence, qui nous permettent de travailler en sécurité et d'éviter nombre d'accidents du travail. Et donc se pose la question après de, aujourd'hui, quelles sont les conditions de cette transmission des savoir-faire de prudence. Il y a effectivement d'abord l'application du droit, hein, qui devrait s'observer partout, et il y a effectivement des enjeux d'information et de formation, mais aussi derrière, c'est s'interroger aussi sur les organisations du travail, est-ce qu'elles permettent effectivement d'assurer des temps d'échange, des temps qui peuvent paraître des temps morts pour la production, des temps improductifs, mais des temps qui sont extrêmement importants pour transmettre, donner à voir le geste technique qui peut être fait en sécurité.
Est-ce que il y a aussi, vous nous disiez en préparant cette émission, qu'il y avait aussi la notion de précarité qui rentrait en compte, non pas seulement la notion d'organisation du travail, c'est-à-dire quels sont les temps, qui peut aller sur le chantier, quelles sont les normes de sécurité, mais aussi le type de contrat avec lequel on travaille. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi est-ce que le type de contrat intervient sur la dangerosité du travail?
Cette précarité d'emploi, elle est en fait aussi souvent, elle se traduit, si je prends les intérimaires, elle se traduit en fait par le fait que on ne cesse d'intégrer un nouvel espace de travail, une nouvelle organisation du travail. Et on a beau maîtriser les gestes techniques d'un métier, d'un chantier à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une usine à l'autre, on ne produit pas tout à fait de la même façon. Et on a beau avoir les mêmes équipements, c'est pas tout à fait les mêmes collègues, c'est pas tout à fait la même hiérarchie, etc. Et donc il y a tout ces savoir-faire de prudence, ils sont au fond remis sur le tapis. Enfin, il faut les réapprendre à chaque fois. Et donc on observe comme ça une fréquence plus élevée d'accidents du travail, par exemple chez les intérimaires, mais on a parlé des stagiaires. Enfin, au fond les contrats un peu plus précaires également, les CDD, etc. Tout cela s'explique aussi par le fait qu'en fait ce sont à chaque fois des nouveaux collectifs dans lesquels il faut s'intégrer et apprendre ces savoir-faire de prudence qui vont nous permettre d'agir en sécurité.
Fabienne Bérard, vous souhaitez réagir ?
En fait, je souhaitais revenir sur les remarques qui ont été faites précédemment sur les stagiaires dans les entreprises,
je vous en prie.
Sur les accidents, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Dufil notamment. On parle d'accidents, de drames qui surviennent parfois donc dans une entreprise où le collectif de travail est bien sûr très très affecté, très peiné et très choqué, et notamment le fait qu'il peut même y avoir un lien familial entre l'entrepreneur et le stagiaire. Bon, mais encore une fois, ça montre, si tout le monde est surpris, si personne ne s'attendait à l'accident, je pense que ça montre bien qu'il y a un véritable problème de sous-évaluation des risques. Or, il existe un document annuel qui doit être mis à jour, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Si son entreprise n'a pas fait cela, alors en quelque part, elle n'a pas rempli sa mission de prévention des risques. Il y a un manque d'information, il y a un manque de formation, il y a une absence de prévention, il y a des manquements graves, il y a des manquements fautifs, il y a des manquements, je suis désolée de prononcer le mot, mais criminels, quelles que soient les relations qui existent entre la victime et l'entreprise ou le donneur d'ordre ou le chef d'équipe, peu importe. Et puis surtout, ce qui est dramatique, c'est le délit d'habitude. Alors le délit d'habitude, c'est on fait comme ça depuis 10, 15, 20, 30 ans et on n'a jamais eu d'accident. Alors en gros, on va pas venir nous apprendre notre métier. Mais si, justement, c'est la réaction à avoir. Les accidents, il faut agir en amont. Après, c'est trop tard. Nous, ce sont les dépouilles de nos enfants, de nos conjoints, de nos frères et sœurs que nous récupérons. C'est avant qu'il faut agir. Donc, tout ce travail de prévention, il est indispensable. On joue pas avec la sécurité parce que ça signifie jouer avec des vies. Quant à conseiller aux jeunes qui se sentent en danger de dire « Oups, je me sens en danger, je veux me mettre en retrait », il faut se mettre à la place de ces toutes jeunes personnes qui n'ont certainement pas les compétences, la capacité, aient le réflexe de faire cela. Hein, ce sont pas des syndiqués, ce sont pas des, ils sont pas, ils ont pas l'étiquette CGT, ces jeunes-là. Ils sortent de l'école, ils ont posé leur cahier, leur stylo, leur encadrement habituel, c'est-à-dire des enseignants qui sont là, qui leur disent tu as fini telle activité, tu passes à telle autre. En aucun cas, ils n'ont acquis les réflexes des personnes qui sont sur les chantiers depuis des années. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les réflexes. Et en aucun cas, on peut rejeter la responsabilité sur eux en disant il aurait dû dire qu'il se sentait en danger et demander à se mettre en retrait. Ça, c'est inacceptable.
Paul Defile.
Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire, Madame Bérard. Il ne s'agit certainement pas de rejeter la responsabilité sur ces jeunes. Je dirais, bien entendu, comme la ministre du Travail l'a dit elle-même, il y a besoin d'aller renforcer le cadre de façon effectivement à donner un univers beaucoup plus sécurisé d'abord à ces jeunes mais également aux personnels qui sont en contrat précaire, qui aussi pour des questions d'intégration dans les collectifs de travail ont besoin de plus de temps, de plus d'accompagnement. Hein, et on est bien conscient sur le fait que même si des formations peuvent aider à mettre des parades, aucune parade n'est absolue et qu'il y a besoin d'aller développer effectivement tout un nombre de dispositifs complémentaires donc pour aller au bout. Et on est bien persuadé, je dirais tous les acteurs de la prévention sont très investis. L'OPPBTP, nous agissons énormément en formation initiale. Nous sommes présents dans plus de 260 établissements en formation professionnelle, en formation supérieure, parce que on a les mêmes enjeux, je dirais, pour les encadrants. On a entendu les parents de Jérémy, qui était donc élève ingénieur. Et donc on a besoin effectivement de ces accompagnements. Donc il s'agit pas du tout d'aller opposer l'un à l'autre. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir vraiment la conjugaison des volontés, des actions des uns et des autres, parce que c'est une question sociétale et on a encore vraiment des enjeux profonds sur lesquels aller jouer.
Alors vous, Paul Dufil, vous faites partie de l'OPPBTP. Vous avez répété cet acronyme, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Très rapidement, en quoi ça consiste et quelle réponse vous trouvez des entreprises avec lesquelles vous intervenez ?
Alors l'OPPBTP, c'est un organisme paritaire des branches bâtiment et travaux publics. On a été créé en 1947 par un homme visionnaire et notre mission principale, c'est d'abord l'accompagnement des entreprises qui sont adhérentes obligatoires pour leur apporter de l'information, de la documentation, de la formation et du conseil. Alors nous sommes un peu moins de 400 pour l'ensemble du territoire. On a 200 000 entreprises dans le BTP, 1 700 000 actifs. Donc on n'a pas une possibilité pour accompagner chacun. Nous travaillons d'abord énormément par de la promotion, avec de la promotion qui fonctionne. Madame Bérard a parlé du document unique d'évaluation des risques. Dans le BTP, c'est relativement stable. Il y a 80% des entreprises qui disent l'avoir rempli, ce qui est déjà bien par rapport à la moyenne nationale, qui est plutôt à 50%. Sur les 5 dernières années, ce que l'on a mesuré au travers d'enquêtes que nous menons régulièrement, c'est qu'on a monté, on a augmenté de 15 points sur la réalisation du plan d'action, qui est l'élément clé. Parce que évaluer, c'est bien, mais il faut surtout agir. Il faut engager un certain nombre d'actions pratiques, que ce soit des équipements, de l'organisation, de la formation, pour effectivement faire monter le savoir-faire, la performance.
Arnaud Mias, en parlant d'action, il y a un autre point qui est souvent souligné, c'est la fragilisation des institutions en charge de la santé et du contrôle des conditions du travail, la fragilisation de la médecine, de l'inspection du travail.
Oui, c'est un constat qui est fait maintenant depuis pas mal d'années et c'est pas faute de tout un ensemble de réformes pour essayer de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer, alors c'est des difficultés différentes, des formes de fragilisation différentes, soit le groupe des médecins du travail qui sont de moins en moins nombreux du fait d'une forme de démographie particulière. Et donc depuis maintenant plus de 20 ans, il y a toute une série de réformes qui ont essayé de compenser ce manque de médecins du travail par tout un ensemble de mesures et en particulier l'appui sur des intervenants en prévention des risques professionnels.
Mais il y a aussi eu des mesures qui ont voulu simplifier. Je pense au décret Rebsaben du 17 avril 2015 qui permet de embaucher plus sur une simple déclaration un stagiaire sous réserve d'avoir procédé à une évaluation des risques préalable, mais donc sans contrôle de l'inspection du travail. Il y a aussi la simplification, alors là ça va être technique, du CHSCT, le Comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail, qui était une instance qui avait pour objet précisément de s'occuper de la prévention des accidents de travail, et notamment, et il a été supprimé par ordonnance, fusionné avec une instance plus grosse et peut-être rendu moins pratique. Est-ce qu'à trop vouloir simplifier, recouper, accélérer, on a, sans le vouloir évidemment, de manière indirecte, créé l'espace pour que ces accidents du travail se perpétuent et que ces morts du travail se perpétuent?
En tout cas, l'observation qu'on peut faire dans des grandes entreprises, c'est que cette fusion des instances, elle a eu tendance plutôt à centraliser le dialogue social, c'est-à-dire à faire que les représentants du personnel sont un peu moins au contact des situations de travail et des salariés. Et donc, le constat qui est fait, et qui, je crois, est assez largement partagé, surtout dans les grandes entreprises, il ne faut pas amalgamer toutes les situations, mais dans les grandes entreprises, ce qui est ressenti aujourd'hui, c'est le besoin de retrouver quelque chose qui soit une forme de dialogue social de proximité, on parle parfois de dialogue professionnel, de temps et d'espace de discussion qui vont traiter de tous les aléas, toutes les difficultés du quotidien du travail qui peuvent participer aux causes et aux facteurs d'accidents du travail. Après la disparition des CHSCT, effectivement, a complexifié parfois la manière dont ces questions de santé et sécurité peuvent être suivies et discutées par les représentants du personnel. Cela étant dit, il faut aussi avoir en tête que les CHSCT fonctionnaient de façon très variable selon les entreprises. Il y avait des CHSCT qui fonctionnaient très très bien, et puis dans beaucoup d'entreprises, au fond, le fait qu'il existe sur le papier une instance ne voulait pas forcément signifier que effectivement, ces problèmes étaient pris en charge mieux qu'aujourd'hui.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
On doit tous la vie à quelqu'un et on a tous sauvé la vie de quelqu'un. Voilà. Qu'on rattrape par la manche, par le col de la chemise ou des choses comme ça. Tous les jours. Tous les jours. Un camion qui recule, une trémie qui lâche, enfin ça, tous les jours. Il n'y a pas une journée sans. En fait, on s'en rend même pas compte parce que ça devient tellement banal et tellement quotidien que finalement, nous, la mort, elle est tellement inscrite sur notre fond d'écran psychique qu'on sait que ça fait partie du truc. Et parfois, on a des salariés qui prennent plus de risques nécessaires pour garder leur boulot, quoi. En parallèle, on a une minorité d'entreprises qui essayent de bien faire, mais encore une fois, au niveau de la concurrence, c'est pas eux qui ont le marché.
La voix de Frédéric Mont, secrétaire général CGT des salariés du BTP. Vous êtes bien sûr France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir aux accidents graves et mortels au travail en compagnie d'Arnaud Mias, sociologue, professeur des universités à l'université Paris-Dauphine. Paul Dufil, je me suis répété, secrétaire général de l'OPP BTP, maintenant nous savons très bien ce que c'est, et de Fabienne Bérard, présidente de l'association collectif Famille Stop à la mort au travail. Paul Dufil, il y a un exemple où les choses se sont bien passées, qui revient souvent lorsqu'on parle d'accidents mortels du travail, c'est celui des JO. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ben tout à fait. Les opérations de construction pour les Jeux Olympiques, d'abord c'est une très grosse opération, avec 50 chantiers. Et c'est un total de à peu près 4 milliards d'euros. C'est 30 000 compagnons qui sont impliqués sur des sites multiples, essentiellement dans le nord de Paris. Pour moi, la construction des sites olympiques et du village olympique, c'est la première victoire olympique française. On a livré dans les temps, au budget attendu, dans les délais, l'ensemble du village olympique et, remarquable,
parlons.
Aucun accident mortel et un taux d'accident 4 fois inférieur à la moyenne dans la construction.
Mais comment ça s'est passé ?
Alors, il y a différents facteurs qui expliquent cela. Le premier, moi je crois qu'il faut d'abord rendre hommage à la charte sociale des JO, qui est issue d'une initiative paritaire. Bernard Thibault et Dominique Carlac ont été les porteurs de
Bernard
cette charte
Thibault,
sociale.
Secrétaire général de la CGT, Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF.
Exactement, ils ont été les porteurs, les initiateurs de cette charte sociale qui a posé un cadre où on a commencé par avoir l'engagement des donneurs d'ordre, de la maîtrise d'ouvrage, qui ont posé effectivement que, entre autres, les questions de santé et sécurité au travail étaient un des éléments clés dans le projet. Et ça a permis d'avoir des acteurs, alors aménageurs, Solideo, pour être technique, et puis tous les maîtres d'ouvrage, qui ont porté effectivement leur volonté d'excellence en santé et sécurité au travail tous les jours. Je peux vous dire, moi j'ai eu le témoignage du patron d'une des ETI françaises qui a été convoqué 2 fois par le directeur général de Solideo. Le message était clair, Et la retransmission sur l'ensemble de l'opération était très claire. Bon, deuxième élément qui a été important également, il y a eu quand même des entreprises de premier rang qui sont intervenues, qui sont des entreprises qui sont très structurées, très organisées, donc qui apportent des moyens, de l'expertise, donc de la connaissance. N'oublions pas également le rôle joué par l'inspection du travail. Hein, les contrôles jouent leur rôle également dans ce domaine-là. Hein, et sur les chantiers JO, il y a eu en moyenne un contrôle par jour sur un des chantiers.
L'inspection du travail qui est progressivement renforcée ces dernières années après avoir été largement fragilisée.
Tout à fait. La ministre a fait état récemment de la capacité qu'elle a eue à préserver les budgets donc pour l'inspection. Hein. Et puis, dernier élément qu'il ne faut pas non plus négliger, ça a été la participation des partenaires sociaux. Hein. Nous avions recommandé de mettre en place une instance un peu spéciale qu'on a appelée le Collège Interchantier, qui était donc une instance qui a été créée spécifiquement pour... Parce que c'est vrai qu'avoir le regard contradictoire des différents acteurs du chantier est un élément aussi important pour qu'effectivement le dialogue, l'écoute se passe correctement et que parfois les signaux faibles soient entendus pour permettre de corriger certains écarts qu'on peut constater.
Fabienne Bérard, à partir de cet exemple des Jeux Olympiques, est-ce que votre collectif a proposé des mesures, des choses à revoir qui seraient généralisables sur l'ensemble des chantiers, sur l'ensemble des secteurs d'activité ?
On en a discuté avec Astrid Panossian-Bouvet et avec les personnes qui travaillent autour d'elle. Bien sûr, l'exemple des JO, c'est le bon exemple. C'est ainsi qu'il faut travailler, bien entendu. Après, il n'y a pas eu de victimes sur les chantiers des JO, c'est exact. Mais il y avait une présence d'inspecteurs du travail bien plus nombreuse qu'à l'habitude. Enfin, faut quand même rappeler qu'en France, il y a en moyenne un inspecteur du travail pour 1000 entreprises et en moyenne donc 10 000 salariés. Donc c'est très peu. Or, justement, les mesures qu'annonce Astrid Panossian-Bouvet, là, conjointement avec le ministère de la Justice, c'est le renforcement du rôle des inspecteurs du travail, dont on se félicite, hein. Mais il en manque. Hein. Il y a 45 nouveaux postes attendus pour l'année prochaine, ça fait peu. Ça comble juste les départs en retraite des inspecteurs du travail, apparemment, si j'ai les bonnes informations. Mais en tout cas, on peut se féliciter de voir que les mesures proposées demandent une meilleure coordination entre l'inspection du travail et notamment, alors là on parle d'avant les accidents, mais entre meilleure coordination par le biais d'éco-saisines entre l'inspection du travail et les parquets, parce qu'une fois que l'accident est arrivé, il y a aussi un énorme travail qui démarre sur le plan juridique, et ces éco-saisines qui vont donc exister, être mises en place à l'échelle nationale, elles n'existaient que dans certaines juridictions, et nous on le déplorait depuis des années, depuis le début, on voit que ça va être étendu au niveau national. Et aussi on voit que les condamnations, enfin en tout cas l'ensemble des personnes dans la chaîne de responsabilité seront concernées, pas seulement l'entrepreneur, mais aussi les donneurs d'ordre, les chefs de chantier, les architectes et autres. Voilà.
Ça, c'est très important. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, c'est-à-dire ne plus remettre en cause l'entreprise elle-même, mais les individus qui sont en responsabilité au moment de l'accident.
Mais bien sûr, parce que la réalité, en fait, nous, on le vit. Hein, on le vit chaque fois qu'on va au tribunal et on a assisté à de nombreux procès. C'est que les chefs d'entreprise, tout là-haut, ils sont quand même bien loin de la réalité du terrain pour certains, et notamment ils ne mettent pas les pieds dans les tribunaux. Alors comment se sentir concerné par la détresse d'une famille si on a juste lu un dossier, hein ? La réalité, elle est humaine en fait. Hein. La réalité, c'est qu'il faut avoir le courage de mettre les pieds dans un tribunal, d'assister au procès et de voir la douleur et le traumatisme des familles et d'entendre tous les détails de l'accident et du rapport médico-légal, etc., etc. Ça, c'est difficile, c'est très difficile à vivre. Mais les chefs d'entreprise, et je parle d'un nombre d'entreprises assez importants, notamment les grands groupes, ils ne mettent pas les pieds dans les tribunaux parce qu'ils ne sont pas impliqués, parce qu'il y a cette chaîne de responsabilité, parce qu'il y a ce qu'on appelle les délégations de responsabilité. Et nous, on appelle ça le fusible qui saute dans la hiérarchie de l'entreprise. Voilà. Donc les responsabilités, elles sont attribuées à quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne, en tant que personne physique ou en tant que représentant la personne morale de l'entreprise, qui sera présente au tribunal. Voilà. Et puis, il va y avoir une amende au pénal, une amende qui tombe dans l'escarcelle de l'État. Et puis, il va y avoir des peines de prison qui sont toujours aménagées de toute façon, qui sont inférieures à 24 mois. Et en fait, aucun chef d'entreprise, à ma connaissance, n'a jamais mis, enfin en tout cas depuis que le collectif existe n'a jamais mis les pieds en prison, mais c'est surtout cette déresponsabilisation des chefs, des grandes entreprises, des grands groupes, qui au final, ils sont là pour diriger leur entreprise, ils sont là pour prendre les grandes décisions en matière de prévention des accidents. Il faut prendre des décisions, il faut faire des réunions, il faut voter des budgets. Donc, ils sont bien évidemment responsables de la mise en place et de la qualité de la prévention des accidents dans leur entreprise. Mais au final, ils ne sont même pas inquiétés. La personne morale, c'est une amende. Pour nous, ça ne suffit pas.
200 000 euros,
on demande concrètement une liste noire. Il existe une liste noire du travail dissimulé en France. On demande la même liste noire pour les accidents mortels au travail, notamment pour avoir de la transparence. Parce que n'importe qui, n'importe quel citoyen, n'importe quel travailleur, intérimaire, stagiaire, n'importe quel parent a envie de savoir où on met les pieds quand on va au travail. Donc on veut de la transparence.
Renforcer la coercition comme outil de prévention, afficher systématiquement les entreprises condamnées. Arnaud Mias, est-ce que ça vous semble des pistes intéressantes pour essayer d'agir, de forcer à changer les pratiques autour de la sécurité au travail ?
On peut penser qu'effectivement, l'articulation plus forte entre inspection du travail et parquet, c'est un élément sans doute qui va dans le bon sens, en particulier pour renforcer l'inspection du travail. L'inspection du travail, c'est effectivement des hommes, du temps qu'ils peuvent consacrer, et on peut considérer qu'ils manquent de moyens. Mais les moyens, c'est aussi la capacité qu'ils ont d'influencer et de peser dans leurs recommandations, dans leurs observations, dans leur mise en demeure vis-à-vis des employeurs. Et ce qu'observaient beaucoup les inspecteurs du travail par le passé, c'était que quand ils allaient jusqu'au procès-verbal, quand ils allaient jusqu'à la sanction, parce que c'est pas le premier de leurs réflexes, on a tendance à penser les inspecteurs du travail comme des gendarmes qui pénalisent des excès de vitesse. Le gros de leur travail, c'est de faire des observations, de rappeler le droit avant d'aller vers la sanction. La difficulté qu'ils pouvaient rencontrer jusqu'à présent, c'était que parfois, et assez souvent, les parquets avaient du mal à suivre leurs décisions et à donner suite à ces décisions. Si désormais il y a une certitude plus forte que les parquets vont effectivement aller au pénal sanctionner les employeurs responsables, enfin j'aurais presque envie de dire irresponsables.
Fabienne Bérard disait pas seulement les employeurs en tant qu'entreprise, mais aussi
en tant que personne. Ça va sans doute aussi renforcer l'action des inspecteurs du travail au quotidien, c'est-à-dire du coup de les rendre aussi plus crédibles dans leur capacité à influencer et à peser sur les décisions de l'employeur.
Paul Dufil.
Un élément important dans ce qui a été annoncé par Astrid Panosian-Bouvet, c'est que les poursuites dont on parle, c'est pas simplement la chaîne des entreprises. Enfin, aller vers le dernier lampiste de la chaîne, qui est souvent celui qui est condamné, ne va pas régler le problème. On a besoin d'avoir une association, une responsabilisation de l'ensemble de la chaîne, à commencer par le maître d'ouvrage, parce que c'est lui qui doit donner les moyens.
Le donneur d'ordre.
C'est lui qui doit poser l'exigence et donner les moyens pour aller avec. Et il y a un travail complémentaire qui a lieu en ce moment entre le ministère du Travail et des Finances, avec une circulaire d'application du Code des marchés publics.
C'est possible, dans le Code du Travail, en tout cas dans la loi, c'est possible de mettre en cause le donneur d'ordre?
Le Code du Travail le permet. Après, la difficulté, je dirais, en justice, c'est la capacité du juge à mettre en cause un donneur d'ordre, qui en général, enfin, autant entre l'employeur et la victime, il y a un lien direct qui s'appelle le contrat de travail. Autant c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue juridique de mettre en cause les donneurs d'ordre, qui sont des spécialistes de la gestion contractuelle et qui, quelque part, plus encore que les délégations dont parlait donc Madame Bérard, mettent finalement tout un nombre de barrières pour être inaccessibles. On a quelques décisions de justice qui les mettent en cause, mais c'est très rare, c'est trop rare. Maintenant, moi j'aimerais rebondir un petit peu différemment, parce que là on parle beaucoup de contraintes, de sanctions, mais la réalité de l'entreprise au quotidien, c'est pas ça. Je dirais même que la gestion du risque au quotidien, on ne part pas chaque matin au travail en pensant au risque. Nous, tout à l'heure, on a parlé des risques liés aux nouveaux dans le monde du travail, qui ont des problèmes de compétences, des problèmes de connaissances. Madame Bérard parlait de l'habitude dans un autre sens, et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que très souvent, finalement, c'est la force de l'habitude qui fait émousser la compétence de prudence dont parle donc Monsieur Mias. Et on a besoin, et c'est là où le rôle des préventeurs est clé. On a besoin de soutenir, on a besoin d'encourager, on a besoin de mettre en avant ce qui fonctionne. Nous avons un énorme besoin en entreprise de faire accepter, de faire prendre, comme je dirais, des réflexes, tout un nombre de ce que nous, on va appeler des routines managériales, qui vont permettre de porter l'attention au quotidien, avant chaque tâche. Parce qu'on a tous besoin de se faire rappeler régulièrement des risques d'activité que nous entreprenons tous les jours. Combien de fois nous faisons les uns les autres des activités chaque jour dont on se dit juste après coup que ça aurait pu être dangereux ? À vélo, en voiture, avec son téléphone. C'est là où on a besoin d'agir. Et alors les préventeurs, il y a les préventeurs institutionnels. N'oublions pas aussi quand même, et moi je pense qu'il faut rendre hommage, parce que les chiffres, s'ils se sont améliorés dans la durée, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a plein de gens en entreprise qui, tous les jours, agissent pour effectivement combattre l'ensemble de ces dangers et faire en sorte que ça s'améliore jour après jour.
Fabienne Bérard, du côté désormais des familles des victimes, vous parliez tout à l'heure d'indemnisation, et comment est-ce que ça fonctionne? Je crois que l'indemnisation se base sur une loi qui date de 1898. Est-ce que selon vous, il faudrait la revoir, et combien sont indemnisées les familles des victimes de ces accidents mortels du travail?
Alors les dommages et intérêts, donc les indemnités pour les préjudices subis par les familles, sont dérisoires. Voilà, elles sont clairement dérisoires, ces indemnités. Elles sont bien inférieures aux amendes qui sont reversées à l'État au moment du tribunal pénal. Donc l'État est mieux indemnisé que nous, par exemple les parents d'une victime. Ça, c'est une question qui nous questionne. C'est une question qui nous chagrine. Pourquoi et à quoi sert cet argent? C'est une question qu'on a posée. D'ailleurs, est-il réinvesti dans la prévention des accidents graves et mortels, cet argent lié aux amendes versées par les entreprises lorsqu'elles sont jugées coupables? Et ben bon, c'est de l'argent qui tombe dans le pot commun. Voilà, forcément il est bien utilisé, l'État l'utilise, mais nous on regrette un petit peu que cet argent soit pas mis justement dans des actions de prévention ou dans des formations destinées vraiment à cet effet. Je vous parlerai pas du montant, mais il est vraiment dérisoire, et puis bon, il est différent d'un... En fait, nous on déplore une uniformisation du traitement des familles et des indemnisations des familles, parce que ça n'existe pas vraiment. Il y a un rapport Morné qui est cité, qui est pris, mais je peux juste donner un chiffre. On parle de l'indemnisation du préjudice d'affection quand même. Faut savoir que pour un enfant majeur ne vivant plus sous votre toit, en gros, en tant que parent, vous allez toucher, dans le meilleur des cas, environ 30 000 euros. Voilà. Faut savoir qu'on a beaucoup de frais, ça j'en ai pas encore parlé, hein. Nous on a le volet financier qui est très important. On demande un fonds de solidarité de la part de l'État pour les frais d'obsèques, avec remboursement de la part de la personne qui sera jugée responsable, parce que ce sont des frais conséquents et imprévus. Derrière, on demande une aide juridictionnelle de droit non conditionnée aux ressources des familles, parce que une fois que les familles ont gratté les fonds de tiroir pour faire face aux frais d'obsèques, il y a les frais de justice qui apparaissent. C'est un véritable parcours du combattant, vraiment, sur le plan administratif et judiciaire. Donc, ces indemnités, elles couvrent à peine les frais auxquels on doit faire face. Donc, où est l'indemnité de préjudice d'affection? Je ne sais pas.
Arnaud Mias, très rapidement, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, l'accompagnement, c'est le premier pas peut-être à faire pour mieux accompagner et mieux encadrer ces morts au travail.
Oui, peut-être. Je pense à une autre forme d'accompagnement. C'est-à-dire aussi, c'est prévu par le droit, hein, les enquêtes après accident. Mais au fond, qu'est-ce qu'on apprend de ces enquêtes et quel sens on donne véritablement à ces enquêtes? Je pense qu'il y a sans doute moyen de progresser dans l'apprentissage que l'on peut faire d'un accident pour faire évoluer les organisations du travail.
Paul Dufil, en 20 secondes.
Écoutez-moi, un dernier mot. Je pense qu'on a besoin dans ce pays de savoir mieux réconcilier production et prévention. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un chantier bien mené en prévention est un chantier réussi en production.
Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Mias, sociologue, Paul Dufil, secrétaire général de l'OPP-BTP, et Fabienne Bérard, présidente de l'association collectif Famille Stop à la mort au travail. L'émission de ce soir a été préparée par Paul Wenarter, Aloïse Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Théa Corlaire, Modiaïch, Alice Chavarin, Vivian Lecuivre à la réalisation, à la technique ce soir à Paris, Jordan Fuentes et à La Rochelle, Fred Gastine. Bonne soirée sur France Culture.